Bonjour, je suis Stéphane Faure, je vous accueille aujourd'hui sur un podcast de Eutimia qui va porter sur les différentes possibilités de pratiquer la compassion. En effet, nous offrons dans le cadre de nos programmes différentes méthodes basées sur la compassion et il peut être un peu difficile de voir quelles sont les spécificités ou même quel est l'intérêt de pouvoir pratiquer ces méthodes basées sur la compassion. Du coup, je vous oriente un petit peu à travers ce podcast sur les différentes possibilités, leur histoire et leur vocation aussi, en espérant que vous aurez comme ça une meilleure connaissance de leur intérêt et de ce qu'elles peuvent vous apporter. Les pratiques de compassion ont plusieurs portes d'entrée et il peut être intéressant de se poser quelques instants pour explorer ensemble les différentes possibilités qui existent à ce jour. Ça commence à être comme une sorte de labyrinthe et on peut parfois avoir du mal à se repérer. À l'occasion de l'élaboration d'un diplôme interuniversitaire, j'ai eu l'occasion de faire un peu le point avec quelques spécialistes venant de vraiment d'horizons différents. Et j'aimerais partager dans le cadre de ce podcast quelques synthèses à ce sujet qui peuvent nous intéresser chacun pour notre pratique et comprendre un peu comment on peut agencer ces méditations dans notre quotidien, notamment dans une perspective religieuse. La première démarche qui est en train de se développer actuellement est une démarche qui s'est développée plutôt dans les milieux d'accompagnement. En effet, les personnes qui sont soit en charge de personnes dépendantes à charge, soit les soignants, soit les personnes accompagnant des personnes vulnérables, on a pu réaliser qu'il y avait une forme d'épuisement compassionnel qui pouvait exister, qui faisait que soit les professionnels ne supportaient plus la souffrance d'autrui, ou parfois qu'il y avait une forme d'épuisement, on mettait tout en œuvre pour aider les autres et au final, il y avait une forme de fatigue compassionnelle qui se développait, il n'y en avait plus de ressources. Ou alors, au bout d'un moment, pour se protéger, se développait une forme de cynisme afin de se protéger tout simplement. Et du coup, on a pu réaliser que les pratiques basées sur la compassion pouvaient être paradoxalement un moyen de pouvoir contourner ce biais et avoir plus de liberté, de pouvoir, au sens littéral du terme, pour pouvoir accompagner autrui. À vrai dire, pour le moment, on ne comprend pas trop comment ça fonctionne, si ce n'est que dans les recherches qui ont été menées il y a une dizaine d'années par l'Institut Planck en Allemagne, grâce à d'ailleurs, paradoxalement, à une erreur d'imagerie cérébrale avec Mathieu Ricard, on a pu se rendre compte que les zones cérébrales qui sont en lien avec l'empathie ne sont pas les mêmes qui sont celles en lien avec la compassion. À un moment, Mathieu Ricard fait une pratique et on lui demande de générer de l'empathie vis-à-vis de personnes en souffrance et c'est insupportable de voir des gens souffrir. Et à un moment, il demande la possibilité de faire une méditation pour retrouver un peu de force. Et on laisse brancher la machinerie. Et tout d'un coup, on observe que l'imagerie cérébrale qui se déclenche n'est plus du tout la même que celle d'avant. Et ça a été le début d'un cycle de recherche qui a pu montrer qu'en effet, il y avait une distinction entre les zones du cerveau qui concernaient l'empathie et celles qui concernaient la compassion. Et ce point de départ a pu permettre à ce qui était déjà une hypothèse de se confirmer et de faire prévaloir qu'en fait, la compassion dans l'accompagnement de personnes vulnérables était vraiment quelque chose qui était plus qu'intéressant, alors que jusqu'à présent, on disait l'empathie, d'accord, mais la compassion, non. Parce qu'on va s'identifier à la souffrance de l'autre, parce que du coup, cette souffrance va nous mettre en danger, etc. Il était supposé qu'on mette une forme de distance avec la souffrance d'autrui. Il y a quelques années de ça, en réaction à ça en France, un psychiatre psychanalytique avait mis en exergue le fait que, bien entendu, ces recherches étaient visibles, étaient vraies, mais que quand même, cette pratique de compassion était une compassion qui était plutôt une compassion à caractère bouddhiste, et qu'en conséquence, il paraissait peu approprié de l'adapter de façon systématique dans le cadre du soin. Ce à quoi les tenants de cette approche ont rétorqué que, bien qu'elle fût découverte dans le cadre d'une pratique bouddhiste, on aurait tort de dire qu'elle soit bouddhiste en tant que telle, mais que, en fait, cette découverte ne concernait que la pratique compassionnelle, sans forcément que toute la culture, la vision, la croyance bouddhique soit concernée dans ce processus. Donc, à ce jour, ces pratiques se développent. Thomas Busini, qui est un psychologue en France, a développé plusieurs programmes à l'intention du personnel soignant en France, dans différents endroits. À titre personnel, j'ai pu aussi développer un programme qui s'appuie sur certaines pratiques de compassion. Et le programme MBCL à Bordeaux, CHU de Bordeaux, est dispensé par Férouz Vergne, et notamment auprès de personnels de santé. Toutefois, la dimension professionnelle est vraiment distincte du programme MBCL. On invite vraiment les personnes à mieux gérer les émotions à travers des pratiques de compassion qui sont généralement qui misent généralement sur la prise de conscience de trois types d'états mentaux qui sont l'état d'envie, l'état de ressourcement et l'état de menace. Et l'état de compassion vise à toucher un état de ressourcement, un état d'apaisement qui est propre aux mammifères quand ceux-ci s'occupent de leur progéniture. C'est pour ça que ces pratiques de compassion sont si efficaces. Ce qui nous conduit à une deuxième approche. Donc on a ces trois humeurs de base, si on veut. Là où on se sent menacé, là où on se sent en insécurité, là où on se sent dans la pulsion, où on pense qu'on a envie de quelque chose, que c'est très important pour nous, tous les états qui peuvent conduire à des états d'addiction, du reste. Et puis on a cet état d'apaisement, qui est cet état qu'on développe quand on prend soin de notre progéniture, quand on est ensemble, quand on fait société, et qu'on crée du lien pour pouvoir survivre, l'être humain n'ayant eu que ça, finalement, pour pouvoir faire face aux dents de sabre, aux griffes des prédateurs. Du reste, quand on observe l'actualité, on a du mal à penser que finalement, c'est la compassion qui nous a sauvés, parce que des fois, on a plutôt l'impression que l'homme est un loup pour l'homme, selon l'expression consacrée. Donc, une autre branche des pratiques compassionnelles s'appuie par exemple sur des programmes comme le programme MBCL, que nous, on a développé particulièrement à Eutimiac, a été fondé par Eric Vandenbrink, notamment. Et cette approche-là, qui s'est développée, se base sur les recherches d'une personne qui s'appelle dont les professeurs, le chercheur pardon, Paul Gilbert, qui est un psychologue, ainsi que Christopher Germer et Christine Neff, qui ont beaucoup travaillé sur les pratiques de compassion, mais cette fois-ci dans un cadre plus thérapeutique. À cette dynamique du programme MBCL, on peut évidemment rajouter un autre fondateur du programme MBCL, qui est Fritz Koster. Donc ces deux personnes se sont appuyées sur les recherches de ces psychologues, de ces psychiatres, et ont pu observer que des pratiques de compassion avaient un effet important sur les désordres mentaux, et notamment sur la mésestime de soi. En particulier, Christopher Germer et Christine Neff à travers les programmes MSC, Mindfulness Self-Compassion, ont pu développer beaucoup de pratiques d'autocompassion face à un public qui souffrait d'une mésestime de soi très forte. Et cette mésestime de soi, on la retrouve notamment dans des désordres mentaux très souvent. Des problèmes de maladie qui conduisent à des états psychiatriques très difficiles à vivre avec beaucoup de souffrance mentale. Et en conséquence, le programme MBCL, lui aussi, suit cette progression. Mais plutôt que, comme le programme MSC, de se focaliser seulement sur l'autocompassion, va s'appuyer aussi sur une démarche plus universelle de compassion et inviter les personnes à s'engager socialement. Et cet engagement social participe de l'effet thérapeutique. Donc ici, on est encore une fois dans une perspective qui est vraiment dans l'ADN du programme MBCL. On a vraiment une dimension de soins. Donc on a les thérapies fondées sur la compassion de Paul Gilbert, ce programme MBCL, ici on doit être complet, notamment en France. On a aussi un programme qui s'appelle MBCI, Mindfulness basé sur la compassion et l'insight, qui s'est développé notamment dans le cadre de recherche à Caen et par le professeur de la meilleure notamment, et qui propose un ensemble de programmes, là aussi, principalement autour du soin. Soins psychiatriques et psychologiques, dans le but de retrouver un équilibre de vie, dans le but d'atténuer justement toutes ces pensées autocritiques. Et vont se rajouter dans ces programmes-là une dimension d'observation de la conscience et des pensées, qui va permettre là aussi de renforcer l'effet d'apaisement. Donc, dans tout ce nouveau socle de pratique, on est vraiment dans une perspective plus hospitalière, plus du soin. Et personnellement, jusqu'à présent, j'avais l'impression qu'il y avait une forme d'universalisme dans ces pratiques, qu'il y avait ces pratiques de compassion s'appliquer de façon universelle, quelle que soit la situation, qu'ensuite, de façon plus spécifique, elle pouvait s'adresser de façon formelle à un public, par exemple, de soignants ou à un public de personnes atteintes de maladies ou de souffrances mentales. Mais le professeur Mellet, Emmanuel Mellet, qui intervient dans le groupe d'imagerie neurofonctionnelle et l'Institut des maladies neurodégénératives à Bordeaux, à l'OCHU de Bordeaux, m'a expliqué longuement qu'en fait, pour qu'elle soit efficiente, systématiquement, on devait paramétrer ces pratiques de façon de calibrer, on pourrait même utiliser ce terme, les calibrer avec beaucoup plus de spécificité en fonction de tel ou tel public. Par exemple, actuellement, il travaillait sur un programme de pratiques basées sur la compassion dans le cadre de soins palliatifs. Et là, il était nécessaire de pouvoir adapter les pratiques de façon beaucoup plus spécifique. Donc, on voit que ces pratiques de compassion doivent se structurer en fonction du public qu'elles concernent. Et on va garder l'ADN de ces pratiques. À chaque fois, il va y avoir cette dimension de compassion. Donc, qu'est-ce que c'est la compassion? Ça va être la sensibilité à la souffrance de l'autre ou de la sienne. Et l'amour, c'est la qualité d'attention avec laquelle on va rentrer en contact avec cette expérience de souffrance. Ensuite, il va y avoir l'expérience de joie, de gratitude, qui va être une capacité justement à orienter son attention sur ce qui nous nourrit, ce qui nous met en joie, ce qui nous donne de l'équilibre à titre personnel et sensoriel. Et puis il va y avoir les pratiques d'égalité qu'on appelle parfois avec l'anglicisme équanimité, qui permet justement de poser la conscience dans quelque chose d'assez vaste, qui peut nous permettre de mieux accepter les différents types d'états d'âme sans nous identifier à chacun d'entre eux, et du coup de trouver une forme de liberté intérieure. Donc ça, c'est le socle, si on veut, de toutes ces pratiques. Et à celles-ci, on rajoute généralement, dans certains cas en tout cas, les pratiques de Tonglen. Tonglen, c'est un mot en tibétain qui signifie prendre et donner, et qui sont un agencement de différents types de pratiques de compassion qui sont proposées dans le cadre du bouddhisme tibétain, mais qui demandent une certaine forme de préparation pour pouvoir être efficientes, mais qu'on retrouve dans beaucoup de programmes, notamment les programmes orientés sur le business, chez Google. Mais aussi d'autres programmes basés sur la compassion, notamment il y a une séance qui est dédiée à cela dans le programme MBCL. Donc cet ensemble de pratiques va être ensuite décliné et il apparaît vraiment important de pouvoir observer que pour qu'elles soient efficientes, la posologie en quelque sorte de chacune de ces pratiques, la part par exemple qu'il va y avoir pour l'autocompassion, qui est quelque chose qui est vraiment spécifique en Occident, qui n'a pour le coup pas de source véritable dans les textes bouddhiques, qui a été vraiment quelque chose qui a été mis au point justement pour venir en aide à une certaine forme de mésestime de soi, qui était particulièrement actif et virulent dans l'esprit des personnes, des sociétés modernes, va se développer à l'intérieur de programmes plus spécifiques. Pour nous, dans le cadre de Timya, cette notion d'estime de soi, d'autocompassion, on l'a développée particulièrement à travers une notion qui est importante pour Stéphane Hofort, notamment dans ses apports basés sur la compassion, qui est la notion de richesse intérieure. Cette notion de richesse intérieure conduit le pratiquant à se familiariser avec le fait que, en fait, de façon inhérente, le fait d'être présent génère tout un tas de qualités ou met en lien avec tout un tas de qualités qui sont déjà là. Et au fur et à mesure que le pratiquant va prendre conscience de cette richesse intérieure, eh bien, en fait, cette richesse intérieure, il va être invité à la mettre à disposition, à l'utiliser, afin de pouvoir porter un regard sans haine sur le monde, un regard plus ressourçant sur le monde. Et les pratiques de compassion vont l'aider. Dans les pratiques que moi j'utilise, ce processus de richesse intérieure se développe particulièrement à travers la combinaison de l'attention, du souffle et d'un parcours de présence qui se développe à travers le corps. Et qui fait que l'attention au corps va nous permettre de prendre conscience de cette richesse intérieure, comme si le corps était l'attention qu'on donne au corps nous permettait de nous mettre en lien avec cette richesse intérieure et ensuite le processus elle-même. Donc dans ces processus-là que on propose dans le cadre des programmes timiens, qui sont plus des processus contemplatifs, moins thérapeutiques, l'idée est d'avoir une pratique méditative qui puisse tout de suite avoir un impact sur le regard qu'on peut porter sur le monde, tout autant que sur le regard qu'on peut porter sur soi. Il y a une intégration qui est quasi immédiate. On n'est pas dans une perspective de soin, que ce soit le soin donné aux autres ou le soin donné à soi dans une perspective thérapeutique, mais on se situe ici plus dans un soin, si on peut dire, donné à soi, aux autres et aux vivants en général. Donc, ces différentes portes d'entrée, que ce soit des pratiques thérapeutiques, ou que ce soit des pratiques sociales de compassion, que ce soit des pratiques plus contemplatives, sont vraiment différentes portes d'entrée qui peuvent permettre à chacun de pouvoir développer ses qualités de compassion, que ce soit dans un cadre professionnel, que ce soit pour répondre à une souffrance mentale importante, ou que ce soit dans la perspective de développer sa pratique de pleine conscience. Le programme MBCL est pour sa part un programme qui a été reconnu comme un MBI, un programme basé sur la pleine conscience, par notamment la célèbre université de Bangor en Angleterre. Et les autres approches que nous développons dans Eutimia sont des approches qui sont plus par module et qui nous permettent d'intervenir sur des notions plus orientées sur la méditation et plus tout de suite mettre en lien la personne avec cette globalité compassionnelle, le fait que la compassion n'est pas seulement une perspective thérapeutique, mais vraiment un mode d'être. Et on commence par là, alors que le programme MBCL, ou les pratiques sociales de pleine conscience, basées sur la compassion, vont plutôt finir par cette prise de conscience que ces pratiques de compassion sont un mode d'être. Donc voilà, vous avez toute une gamme de possibilités qui sont offertes aux pratiquants et qui expliquent pourquoi nous insistons tant sur Eutimia, sur ces différentes méthodes, que ce soit celles que nous proposons dans le milieu hospitalier, que ce soit celles que nous proposons dans le cadre du programme MBCL ou que ce soit celles que nous proposons dans le cadre de programmes de 5 semaines ou dans les retraites silencieuses, qui vont nous permettre de développer cette qualité d'attention aimante. Toutes ces pratiques sont très riches et ne s'excluent pas les unes les autres, mais viennent se compléter. J'espère qu'à présent, vous aurez plus d'éléments justement pour vous repérer dans l'ensemble de ces méthodologies. Je vous souhaite du coup une excellente pratique basée sur la compassion et j'espère vous retrouver sur un autre podcast. À bientôt.